Et on poursuit un petit peu dans notre lancée à regarder ces stratégies pour mieux traverser le changement. J'ai retenu deux petites choses. Entre autres, vous m'avez écrit qu'il fallait prendre conscience de ses émotions plutôt que de les nier ou de les fuir. Définitivement, définissez prendre conscience de ses émotions.
Changement, il y a des émotions qui sont pas toujours agréables dans, ouais, dans les changements. Et en prendre conscience, ben c'est noter qu'elles sont là, pas les nier, pas les tasser, et essayer de les nommer. On va en parler un petit peu tantôt, ce que je veux dire par là, mais prendre conscience, c'est ça, c'est noter qu'elles sont là, plutôt que d'essayer, comme on fait beaucoup, parce qu'on est dans une société qui n'aime pas la souffrance, je crois, et je peux comprendre, l'être humain n'est pas fait pour souffrir. C'est sûr. Mais on fait beaucoup pour ne pas sentir ce qu'on ressent, surtout lorsqu'il y a des changements qu'on n'a pas trop choisi. Et on se distrait, hein, il y a des distractions à mon point de vue qui sont bien saines et bien normales. Mais on se distrait dans la télévision, ou on se distrait dans le jeu ou dans l'alcool. Il y a une statistique il n'y a pas longtemps qui m'a tombé dessus. On disait que, si je pense, c'est une étude sur la santé mentale des Montréalais. On disait qu'il y avait 30% des Montréalais qui prennent des anxiolytiques ou des psychotropes.
Oui, c'est sorti maintenant.
Ça fait beaucoup.
Ouais, ouais, ouais.
Je ne veux pas dire que c'est pas nécessaire. Ces médicaments-là sont là pour ça. Mais à quelque part, il y a comme une fuite d'émotions qui sont pas agréables. Et prendre conscience de ces émotions, ben c'est l'inverse. C'est comme une invitation à les laisser monter et à essayer de les amener à la conscience. Et souvent, ça passe par le corps, hein. Quand on les nie constamment, c'est un peu comme l'image que je donne des fois, c'est un peu comme un enfant qui essaye de parler, mais on l'écoute pas pantoute. Et à un moment donné, ben il finit par renverser un verre de lait sur le tapis, puis là, ben on prend conscience qu'il est là, puis mettons que c'est un peu plus grave. Et souvent, les émotions, c'est un peu ce qui se passe quand on les nie constamment. Et je peux pas blâmer les gens de ne pas vouloir souffrir, et moi non plus, j'aime pas ça, non. Mais quand on fait ça constamment, ben à un moment donné, ils prennent des chemins détournés pour arriver à la conscience.
Mais Marc, Marc, si souvent l'émotion est sentie après un événement, il y a parfois des émotions qui sont la racine d'un comportement. Quand on est triste ou quand on est bougonneux, on va peut-être réagir en fonction de ce que l'on ressent, et donc de rester là-dedans va pas nécessairement nous aider à sortir de ce cycle-là.
C'est vrai, et il y a deux choses dans ça. Ça dit, dans le fond, que l'émotion ou l'état d'esprit dans lequel on est provoque un peu le comportement, ou en tout cas détermine notre comportement. L'image que je donne là-dessus, moi, c'est, vous êtes en train d'écouter votre artiste préféré, vous aimez le feeling que ça vous donne, vous êtes dans un bon état, mais tout d'un coup, je sais pas, moi, vous êtes en train de travailler à votre lave-vaisselle, il y a une petite vis qui tombe et qui s'en va dans le trou, puis tout d'un coup, la même musique, elle se met à vous taper sur les nerfs. Pourquoi? Parce que votre état d'esprit a changé complètement. Et la réaction est pas pareille. Alors, l'émotion ou l'état d'esprit provoque le comportement très souvent. Et c'est vrai qu'il faut s'en sortir à ce moment-là. On voit souvent les gens qui veulent faire des changements ou qui veulent passer à travers des changements. Moi, je dis souvent, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est le plus possible essayer de contrôler j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça, là, de contrôler les états d'esprit qui sont paralysants, puis provoquer des états d'esprit qui sont aidants. Alors, c'est quoi les états d'esprit paralysants? Ben, je pense que la peur, c'en est un gros, hein, les gens souvent vont rentrer ça sous le grand vocable de « je suis stressé », mais ça dit tellement rien, « je suis stressé ». On va demander à 12 personnes qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et on va trouver 12 réponses différentes. Ouais. Mais c'est une émotion, c'est une émotion négative. Et de la même façon que si je veux être capable de passer à travers des changements, il faut que je sois capable de provoquer des émotions aidantes, des émotions qui vont me soutenir, comme, je sais pas, moi, l'enthousiasme ou la curiosité, ou peu importe. Il faut aussi que quand les événements arrivent, après coup, que je sois capable de comprendre qu'est-ce que ces émotions-là viennent me dire. Parce que dans une émotion, il y a un signal. Il y a un signal que on est bien fait, dans le fond, hein. On partage ça avec les animaux. On a cette espèce d'instinct que, bon, si je pourrais employer une image, quand on a chaud, le corps nous envoie le signal que par la sudation ou autrement, que faudrait peut-être baisser le thermostat ou il faudrait baisser la température. Quand on a froid, notre corps réagit aussi. Et c'est pareil au niveau des émotions. Les émotions, c'est des signaux que notre corps nous envoie ou que notre, je sais pas d'où ça vient, que notre inconscient, peu importe d'où ça vient, là, mais c'est des signaux qui me sont envoyés pour me dire ça va ou ça va pas.
Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que les émotions sont souvent malhonnêtes, à savoir même presque menteuses, parce que, bon, parfois, on va peut-être, je sais pas, moi, se sentir, ressentir une émotion parce qu'on commémore un anniversaire triste, alors que, somme toute, c'est arrivé il y a X temps et qu'aujourd'hui, il n'y a rien de triste. Parfois, on va se sentir triste alors que ce que l'on est véritablement, c'est fatigué et tout nous tombe sur les nerfs sans trop savoir qu'on est fatigué. Et parfois, je sais pas moi, on va être mal à l'aise ou gêné parce que on est attiré vers une personne que l'on croise, mais c'est comme ça fausse un peu le contact avec cette personne-là, donc c'est pas toujours aidant. Ça fausse les données même.
Ah, absolument, c'est tout à fait vrai. Dans le fond, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience d'abord, puis le relier à quelque chose ensuite. C'est très vrai que très souvent, on va ressentir de la tristesse juste à écouter une musique qui nous fait donner l'impression qu'on a une profonde tristesse. Ouais. Et finalement, c'est vrai que je suis triste à ce moment-là. Et ça peut être vrai aussi des fois qu'un événement est tout à fait passé et que je ressente encore la tristesse. Mais dans le fond, il faut comprendre que au niveau du cerveau, dans le fond, quand je me resserre mentalement, les images ou les sons associés à un événement, ou l'aspect physique, ou en tout cas tout l'aspect sensitif, là, de si je viens qu'à repenser à un souvenir très ancien, si je le revois très comme faux dans ma tête, mon cerveau va me resservir la même émotion. Mais il fonctionne comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut en être conscient à ce moment-là. Est-ce que l'émotion que je suis en train de vivre, est-ce que c'est vraiment relié à ce que je suis en train de vivre là, ou est-ce que je suis en train de me resservir quelque chose dans le passé? Et c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas l'émotion. Moi, je dis des fois à des gens qui me disent « Mais semble que cette union-là, ça fait longtemps que c'est fini, cette séparation-là.
Viens-en, chose.
Comment ça se fait que j'ai encore ça? Mais c'est parce que tu es en train de te resservir le même code, le même souvenir. Change ta façon de te rappeler les choses et tu vas probablement changer les émotions qui y sont associées. Mais puis les gens me disent, ouais, mais ça veut-tu dire que c'est pas réglé, cette affaire-là? Non, absolument pas. Ça peut être tout à fait réglé, mais si je me remets... dans le fond, on se fait du cinéma, hein?
Mais donc, je vous pose la question, comment savoir si l'émotion dit vrai ou non, si l'émotion est aidante ou trompeuse?
Je pense qu'il faut toujours s'y fier. Moi, je pars de là. Là, si je sens la tristesse, ben garde, je la ressens. Deuxième étape, ben après ça, ben à quoi je la relie, cette tristesse-là? C'est là qu'il faut que je travaille un peu dans le fond, puis que j'essaie de voir, mais comment ça fait que je ressens ça? Et là, on va voir derrière. Et moi, je trouve que ce qui aide beaucoup à ça, c'est de nommer l'émotion. Et je pense qu'on a tout le monde, je pense, un manque de vocabulaire. Pour nommer nos émotions, on a l'impression que tout est de la tristesse ou de la colère ou de la joie ou de la peine. Mais il y a un exercice que je fais faire des fois à des gens, moi, quand ils me disent « Ah, je sais pas pourquoi je me sens en colère. » Prenez 10 personnes qui disent qu'ils sentent de la colère, puis essayez d'aller voir derrière, vous allez voir probablement que ça va être relié à 10 choses différentes. Et 10 émotions différentes aussi. Mais la grande chose qui me vient à l'esprit, c'est la colère. On manque de termes. Et il y a un bel exercice, je pense, que vos auditeurs peuvent faire s'ils le veulent, c'est quand ils ressentent une émotion comme ça, ils peuvent aller sur Internet, aller sur Google, faire dictionnaire synonyme et rentrer colère dans le dictionnaire des synonymes, ils vont probablement trouver 30 termes. Mais ces 30 termes-là, c'est tous des termes qui viennent spécifier un peu mon émotion, qui viennent un peu, je dirais, la préciser.
Oui.
Par rapport à moi, là. L'autre à côté, peut-être ça va être d'autres choses, mais moi, bon, ben, peut-être c'est pas de la colère que je ressens, peut-être que c'est juste l'injustice. C'est sûr que ça s'exprime par de la colère. Et nommer les choses, je trouve que ça nous donne une prise dessus. Ouais. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps avec des jeunes enfants. Des fois, on voit des jeunes enfants faire des crises épouvantables. On voit des adultes aussi, tant qu'à ça, là. Mais faire des crises épouvantables. Et quand on apprend aux enfants qu'il y a différentes émotions, puis à nommer ce qu'ils vivent, la crise est beaucoup moins forte parce qu'ils ont le vocabulaire. Alors, au lieu de péter une crise parce qu'ils ne savent pas comment exprimer ce qu'ils ressentent, à un moment donné, ils voient que peut-être ce qu'ils ressentent, c'est j'ai de la peine, ou peut-être ce que je ressens, c'est je suis déçu. Vous voyez que c'est différent. Hein?
Ouais.
Et nommer, ça permet, moi je trouve que ça donne une prise sur les choses. Et ça, c'est, je pense, c'est une des étapes qu'on peut faire. Nommer la chose, l'autre étape après, ben, c'est là qu'on essaie de voir est-ce que c'est trompeur ou pas. C'est relier ça à quelque chose. Est-ce que c'est une vieille peur que j'ai? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au passé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe actuellement? Il y a des fois aussi, faut pas se le cacher, il y a des, je sais pas moi, le doute, par exemple, qu'on ressent, c'est une émotion.
Ouais. Une appréhension.
Et puis, le doute, c'est pour l'une des émotions que les gens ressentent le plus. Ça remonte à très loin. Ça peut remonter à un événement, mais ça peut être aussi plus profond que ça. Ouais. Ça peut être une façon que j'ai constamment de me traiter, finalement, de remettre en doute ce que je fais. Et c'est pour ça que je dis, moi, faut se fier aux émotions. Faut y faire confiance, même si elles peuvent être trompeuses. On verra après, là, s'ils sont aussi initialement trompés. Ouais. Mais il faut que je m'y fie. Si mon corps m'envoie ce signal-là, si j'apprends à dire, faut que je m'en méfie, ben, je suis en train de m'envoyer du signal que ce que je ressens, c'est pas correct.
C'est une chose de s'y fier. Ensuite, c'est de la décoder. Je vous rappelle que Marc Vachon est un des artisans du site osezchanger.com. Marc, vous m'écriviez également que interpréter ces émotions paralysantes comme une invitation à agir, à passer à l'action, compte tenu du fait que oui, on doit les écouter, mais que vous le précisez, hein, c'est pas toujours clair ce qu'elles veulent dire. Donc, comment savoir de quelle façon agir?
Ben, je pense que quand on a compris ce qui provoque une émotion désagréable, prenons celle-là, là, une émotion plus paralysante, la prendre pour un signal d'action, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle m'envoie comme message, quelle est l'action. Et je trouve que dans cette attitude-là, il y a comme une attitude de vouloir pas s'en remettre à, je dirais, à l'environnement, aux autres, ou au destin, etc.
Être proactif.
Il y a comme, ouais, c'est ça. Il y a comme de quoi qui m'envoie le message. Peut-être moi faire quelque chose. Alors, si je ressens de l'impuissance face à quelque chose que je vis, qui peut-être que ça m'envoie le message d'agir au niveau d'apprendre à lâcher prise, par exemple. Je dis pas que c'est celle-là, mais ça peut être ça. Mmh. Si je ressens de la déception, peut-être que si je suis déçu, c'est que j'avais bien des attentes, peut-être que j'ai intérêt à réviser mes attentes. Si, je sais pas, moi, si je me sens incompétent, peut-être que ce que ça m'envoie le message, puis souvent dans les changements organisationnels, les gens vont dire ça, hein, vont dire, moi, je me sens assez incompétent maintenant face à ce qu'on a à faire, mais souvent, qu'est-ce que ça m'envoie peut-être comme message? C'est que faut peut-être que je me mette à rechercher de l'aide un peu pour me soutenir là-dedans, ou chercher de la formation, ou chercher à développer mes compétences, chercher des outils. Voyez-vous, c'est ça les messages d'action. C'est moi qu'il faut qu'il trouve qu'est-ce que cette émotion paralysante-là m'envoie comme message, et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller dans le sens d'agir par rapport à ce, pour pas que je l'ai inutilement, puis pour pas non plus que je, mais je veux pas dire que c'est toujours aussi clair que ça, là, mais pour pas que je la laisse là. Pour pas que dans le fond, je dise, ah, ben, écoute, je ressens ça, bon, ben, c'est ça, c'est comme ça, je trouve que il y a comme une attitude d'impuissance là-dedans, moi, que j'aime pas, et qui nous donne pas de prise, puis surtout si on veut activement passer à travers les changements, il faut que j'apprenne à écouter le message que m'envoient mes émotions paralysantes. Et plus que ça, il faut que j'apprenne à provoquer des états d'esprit aidants. Ça, on s'en reparlera la prochaine fois. Mais je vais juste vous laisser sur un exercice, peut-être que les gens peuvent faire, très simple, s'ils veulent essayer de commencer à travailler un peu sur les émotions. Juste prendre un papier et un crayon, puis écrire c'est quoi les deux ou trois émotions ou états d'esprit paralysants qui vivent régulièrement ou habituellement dans une semaine. Juste les écrire, juste prendre le temps de les écrire.
Mais qu'est-ce qui revient?
Oui, exact. Tu sais, si tu dis tout le temps, ben moi, je me sens découragé, puis ça revient souvent, ben c'en est une, ça. Et essayer de préciser ensuite un peu qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu dis découragé, eux, ça veut dire quoi? Découragé de quoi? Et aller un petit peu plus loin comme ça. Je trouve que c'est une première étape, juste pour se mettre à l'écoute.
On prend ça en note. Marc Vachon du oserchanger.com. Ouais, tout à fait, mais si on veut changer, il faut travailler.
Hein? C'est vrai.
On écoute Ben Abar. Merci beaucoup, Marc.